Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pierre Faucillon. Dernier temps de notre semaine consacré à ce que la crise sanitaire a changé à notre rapport à la nature. Après nous être demandé si la relance économique serait verte, étudier l'intensité de notre dépendance aux énergies fossiles et questionner la place de la métropole dans le monde de demain, parlons ce matin de notre rapport à la nature. Humain, nature vers la réconciliation, c'est la grande question sur laquelle on se penche ce matin.
On voit bien que malgré nos technologies, malgré notre intelligence, le mal se propage plus vite que le bien. Mais ça n'est pas une fatalité. Et puis ce modèle que l'on pensait le seul modèle, le modèle universel, le modèle économique de mondialisation, bah peut-être qu'on peut prendre conscience qu'il y a un autre modèle à inventer. Un modèle qui va plutôt favoriser la proximité plutôt que les flux tendus de commerciaux, d'échanges de marchandises et de personnes. Et un modèle surtout dont on sentait bien intimement quelque part que l'on ne le pilotait plus.
Oh, elle vient vers nous. Bouge plus, bouge plus.
Et vous savez, je crois que nous recevons, pardon d'expression, mais une sorte d'ultimatum de la nature. Eh bien, que nous l'entendions pour une fois. L'entendre, ça veut dire que nous en tirions des leçons, mais pas pour nous diviser, pas pour nous confronter, pour nous additionner, voilà, et pour nous élever.
Nicolas Hulot, l'une des grandes voix de la défense de l'environnement, de la nature, qui en mars dernier s'exprimait au micro de BFM. Le confinement mondial a été l'occasion pour certains animaux de sortir le bout de leur museau et s'offrir une petite promenade en ville. Les citadins, bien que confinés dans leur appartement, se sont émerveillés du chant des oiseaux, à nouveau audible dans les villes libérées des nuisances. Ces urbains, ils ont aussi pris soudainement conscience du caractère quasi vital d'entretenir un lien avec la nature. La prise d'assaut des espaces verts et autres jardins dans les villes au moment du déconfinement en a d'ailleurs été une illustration criante. Ce lien avec la nature, justement, eh bien, il a été au cœur de la pandémie du Covid-19, puisque, rappelons-le, il s'agit là d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie dont les agents se transmettent des vertébrés vers les humains, et vice-versa aussi. C'est justement sur cette frontière entre les humains et le reste du monde vivant que nous allons nous poser ce matin. Comment le Covid-19 doit-il nous obliger à repenser notre rapport à la nature? Quel nouveau contrat avec le vivant dont nous avons presque oublié que nous sommes une partie? Comment se reconnecter avec lui et comment se mettre à son écoute pour que, tels des chasseurs-cueilleurs que nous avons été, nous retrouvions notre capacité à identifier les menaces et parfois les opportunités du vivant, notamment en matière de pandémie, sans se contenter de subir passivement. Pour évoquer ces questions et bien d'autres, on a invité ce matin Anne-Caroline Prévost. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Anne-Caroline Prévost. Vous êtes écologue, chercheuse au CNRS, au laboratoire, au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum d'histoire naturelle. Avec nous également Frédéric Keck. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes anthropologue, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au CNRS et vous publiez, c'est pour demain, donc c'est tout à fait d'actualité, les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. Ça sera chez Zones Sensibles. D'abord, une première question avant de vous faire réagir. Vous avez probablement, évidemment, l'un et l'autre entendu Nicolas Hulot et vous avez probablement aussi des choses à dire là-dessus. Mais avant de commenter cette vision de la crise, je voudrais vous entendre sur une question un peu générale pour ouvrir notre discussion. Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'opportunité que nous offre au fond cette crise de penser le monde d'après, avec d'un côté ceux qui pensent qu'il ressemblera énormément au monde d'avant, ceux qui espèrent très fort qu'il sera différent. Mais parmi les interrogations, il y a évidemment celle de la place de l'homme dans la nature, de notre rapport à notre environnement. Est-ce que vous pensez qu'il y a là effectivement quelque chose qui va durablement provoquer une rupture, ou est-ce que vous craignez que au contraire, eh bien, rien ne change? Anne-Caroline Prévost.
Oui, vous avez raison. On est là dans une, on a ici l'opportunité de penser à quelque chose d'autre. Après, est-ce qu'on va y arriver collectivement ou pas? J'ai l'impression de pensez que ça va dépendre entièrement de nous tous, collectivement, en respectant à la fois nos différences et puis en essayant d'inventer ensemble des nouvelles façons d'être au monde.
Frédéric Keck.
Oui, Nicolas Hulot dit que cette pandémie, c'est l'ultimatum que nous envoie la nature. Alors je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord, parce que c'est effectivement un signal d'alerte qui nous vient des chauves-souris dont les déplacements sont causés par la déforestation en Chine et dont les virus sont ensuite transmis par les moyens de transport, par les avions, par l'industrie. Mais en même temps, dire que c'est un ultimatum, c'est dire que ce serait en quelque sorte la dernière chance, que ce serait la dernière guerre que nous livrerait la nature. Et toute cette thématique de la nature qui se vengerait du mauvais traitement que nous lui avons imposé. Et je crois que si on entend les scénarios que sont construits par les experts spécialistes des maladies infectieuses émergentes, il faut plutôt dire que tous les 4 ou 5 ans, nous avons effectivement un signal d'alerte, que ces signaux d'alerte, leurs effets sont de plus en plus massifs si nous ne les entendons pas, puisque effectivement, le Covid-19, c'est la répétition du SRAS, mais aussi de la grippe aviaire, du H1N1, peut-être dans 5 ans, la dengue, Zika, des maladies de moustiques. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment le dernier signal d'alerte. Par contre, effectivement, l'ampleur de la pandémie fait que nous avons vraiment sous les yeux les mesures qu'il faut prendre pour nous préparer à la prochaine pandémie.
Anne-Caroline Prevot, il y a quelque chose effectivement dans ce discours de Nicolas Hulot, c'est pour ça qu'on l'a choisi, Nicolas Hulot qui parle d'un ultimatum de la nature, mais il n'est pas le seul. On a effectivement entendu des voix expliquer que c'était un message de la nature aux hommes, qu'il y avait une vengeance de la nature. Comme si finalement la nature avait intentionnellement décidé de nous punir pour nos mauvais comportements. Alors soit nos comportements sont loin d'être parfaits et on le sait bien, on en parle très souvent, mais ces discours, ils laissent quand même apparaître une chose, c'est cette séparation qui est toujours là entre les hommes d'un côté et la nature de l'autre. Est-ce que finalement, la vraie faille, Anne-Caroline Prévost, elle n'est pas là, c'est-à-dire cette conviction profonde que finalement nous sommes à part dans la nature et de laquelle nous ne parvenons pas à nous détacher, Anne-Caroline Prévost?
Oui, je suis un petit peu d'accord avec vous. Effectivement, tous ces messages de séparation entre ce que nous, les humains, on fait et puis ce que la nature nous répond, ça encourage hein, et ça encourage à continuer à nous faire penser qu'on est vraiment séparés et puis que tout ce qu'on fait, ça se met contre ce que ferait la nature et qu'elle nous répond. Moi, je ne crois pas. Je pense que la nature... Alors ici, quand je parle de nature, je pense qu'on est tous d'accord. Je parle des êtres vivants non humains. On va les séparer comme ça aussi dans le discours. Qui sont eux-mêmes en interaction les uns avec les autres et qui sont tout à fait capables de se débrouiller sans nous. Et donc, finalement, au lieu de séparer les êtres humains et puis cette nature non humaine, plutôt que de les séparer, moi je propose qu'on retrouve la conscience ou la réalité que nous les humains, nous sommes aussi des êtres vivants, que notre façon de vivre et notre existence, elle ne peut se faire que en interaction étroite avec les autres êtres vivants, et que c'est cette interaction-là qu'il faut qu'on repense collectivement pour quitter cette séparation de fait. La nature ne se venge pas en fait.
Frédéric Keck
fonctionne comme ça.
Ouais. Frédéric Keck, là, on est en plein dans des sujets qui vous préoccupent parce que ce qu'il y a derrière la définition de la nature d'Anne-Caroline Prévost, il y a aussi au fond une contre-proposition par rapport à la question du naturalisme qui est introduit par Philippe Descola par De la nature et culture, où finalement ce concept de nature sous-tend le principe d'une séparation entre nature et culture, entre monde animal, monde végétal. Et humanité. Sauf que cette aspiration à essayer de dépasser tout cela et au fond à faire exploser cette barrière entre humain et reste du monde, on a bien du mal et les scientifiques ont bien du mal à la faire sauter. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a encore tant de mal dans nos sociétés à accepter finalement la proposition que nous fait Caroline Prévost de la nature, c'est-à-dire cette idée qu'au fond il s'agirait de la biodiversité, tout simplement, des êtres vivants, animaux, végétaux, humains et de leur interaction? On a du mal à intégrer cela. Pourquoi, Frédéric Keck?
Pendant longtemps, les sociétés humaines, surtout en Europe, ont expliqué les épidémies par une punition de Dieu. Et ça, c'est un raisonnement que Philippe Descola qualifie de analogiste, c'est-à-dire que dans les périodes de crise, on désigne une victime arbitraire, c'était souvent les Juifs, hein, et puis on les sacrifie et on espère que l'ordre se rétablit. Et puis au XVIIIe siècle, effectivement, on est devenu ce que Philippe d'Escola appelle des naturalistes, c'est-à-dire qu'on a expliqué les épidémies par une vengeance de la nature. Donc on s'est dit, bon, après une épidémie, il faut revenir à un bon rapport avec la nature. Mais comme le dit Philippe d'Escola et Anne-Caroline Prévost, la nature, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un ensemble de relations entre des humains et des non-humains. Et effectivement, pour entendre ces signaux d'alerte qui nous viennent des animaux sur ces zoonoses, ces maladies infectieuses émergentes, eh bien peut-être qu'il faut redevenir ce que Philippe d'Escola appelle animiste, c'est-à-dire de comprendre que nous avons des intériorités communes avec les animaux, puisque nous sommes exposés aux mêmes maladies, mais que ces maladies ne se comportent pas de la même façon selon qu'elles affectent une chauve-souris, un pangolin ou un humain.
Et vous croyez réellement qu'on peut devenir animiste? Parce qu'on voit bien effectivement que, au fond, ce naturalisme, il est devenu d'une certaine manière le nouvel ennemi de l'écologie et qu'il faut faire exploser cette barrière. Et il y a pour cela évidemment des substituts au naturalisme. Vous parlez d'analogisme, vous parlez d'animisme, il y a aussi le totémisme qui sont d'autres fonds, systèmes de représentation, d'autres modèles du lien social et d'identité de l'altérité. Vous croyez réellement que aujourd'hui, en Occident notamment, en particulier, on peut se convertir en animiste?
Alors le totémisme, c'est plus compliqué parce que c'est une conception du monde qui a été développée vraiment dans ce continent fermé qu'est l'Australie, avec des populations nomades qui communiquent dans le désert en se rattachant à des ancêtres prototypiques. Donc c'est assez difficile de retrouver ça en quelque sorte dans notre dispositif mental. Par contre, l'animisme, c'est quelque chose qui reste tout à fait observable dans les sociétés de chasseurs, donc en Amazonie, en Sibérie notamment, où ces sociétés continuent à exister, à développer leur technologie. Et c'est effectivement des techniques qu'on peut retrouver quand, par exemple, on chasse un animal dont on doit prendre le point de vue pour le pister dans une forêt.
On reviendra justement sur ce que peut nous apporter cette approche de chasseur, que vous faites des analogies très intéressantes dans votre ouvrage. On va y revenir. Anne-Caroline Prévost, pour essayer de faire tomber cette séparation précisément entre homme et nature, il faut se reconnecter au vivant, il faut refaire l'expérience de nature qui a quasiment disparu de nos quotidiens, ou presque. Vous travaillez, vous, justement, sur l'expérience nature et sur ce que produit sur notre santé l'absence de nature. D'abord, que produit ce manque de nature et qu'est-ce que la Covid nous a appris en particulier sur ce point, Anne-Caroline Prévost?
Oui, effectivement, plutôt que de prôner pour un retour ou pour une émergence de l'animisme dans des sociétés occidentales qui sont quand même très culturellement différentes, moi, j'ai plutôt envie d'appeler à retrouver la relation profonde qui nous lie au reste du vivant, et au reste des humains et au reste des non-humains. Voilà. Et pas forcément en étant animiste, mais en inventant potentiellement d'autres choses. Effectivement, les expériences de nature, pour ça, c'est intéressant, parce que ce qu'on appelle l'expérience de nature, c'est les moments où chacun d'entre nous se retrouve dans un espace de nature quotidien, pas du tout obligé d'aller chercher l'exotisme. Ça peut être tout petit, ça peut être assez grand, et puis à ce moment-là, on entre en relation, en interaction avec ce vivant, alors avec plein de dimensions différentes, des dimensions intellectuelles ou de connaissances, mais aussi des dimensions affectives, émotionnelles, corporelles, sociales, mémorielles, etc. Et ces expériences-là, elles ont des conséquences très diversifiées en fonction à la fois des gens qui les vivent, de la nature avec laquelle on est, du vivant avec lequel on est, et puis aussi des conditions sociales dans lesquelles on vit ces expériences-là. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est que même si on a tous des expériences de nature, actuellement, on a tendance à moins les ressentir comme importantes pour nous. D'abord parce que il y a de moins en moins de nature au quotidien. La biodiversité disparaît, nous vivons de plus en plus en ville dans des espaces qui sont très bétonnés et sans beaucoup d'espèces animales et végétales. Et puis aussi parce que dans nos modèles de société et de fonctionnement de société, on considère que être dans la nature ou prendre le temps d'en être dans la nature, c'est plutôt une perte de temps et c'est pas très valorisé. Du coup, on n'a pas envie d'y aller. Et donc tout ce cercle-là fait que les expériences de nature diminuent, on va dire se modifient, peut-être deviennent de plus en plus rares. Et c'est ce que certains appellent l'extinction de l'expérience.
Vous dites, on n'a pas très envie d'y aller. Et en même temps, je lisais hier en préparant l'émission que certaines études scientifiques semblent montrer qu'il y aurait quelque chose d'inné, je mets évidemment toute une série de guillemets à l'expression, quelque chose d'inné chez l'homme qui le pousserait à rechercher précisément le contact avec la nature. Alors qu'en est-il? Et alors, comment expliquer, s'il y a quelque chose d'inné qui nous pousse vers la nature, que nous, finalement, nous n'y soyons pas tellement... Pas tellement enclin finalement à la retrouver comme vous le dites.
Alors quelque chose d'inné, je pense que vous voulez peut-être parler des théories de la biophilie.
Oui, c'est ça.
Moi, j'irai pas jusque là. C'est assez controversé en fait au niveau scientifique. Par contre, ce que tout le monde accepte, c'est qu'on a certaines préférences de certains espaces naturels qui sont, quelles que soient les cultures chez les sociétés humaines. Et avec des espaces qui sont assez ouverts, avec de l'eau, une diversité végétale et animale, etc. Et qui pourraient venir de nos ancêtres, mais tout ça est très conjoncturel. Par contre, ce qui semble assez faire consensus, c'est qu'effectivement, on a souvent besoin d'aller au vert et d'aller dans la nature pour nous ressourcer et pour restaurer notre attention, par exemple, notamment dans des vies qui sont trépidantes au niveau intellectuel et professionnel. Et ça, je pense que tout le monde le ressent de temps en temps, et les expressions populaires le montrent bien. Quand on a besoin d'aller prendre l'air, de se mettre au vert, etc., c'est bien pour dire ça.
Frédéric Keck, sur cette expérience de nature, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si finalement ce manque d'expérience de nature pourrait en tout cas être un élément qui expliquerait notre difficulté à agir réellement pour la défense de l'environnement? On répète à l'envi qu'en réalité on sait parfaitement ce que l'on produit sur notre environnement et les effets néfastes des activités humaines. Or, il semble que évidemment la réponse que nous apportons n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Est-ce que précisément cette coupure de la nature pourrait pas être l'un des moteurs de notre inaction? Frédéric Keck.
Oui, c'est certain que la coupure entre l'urbain et le rural, entre la ville et la campagne, a beaucoup joué dans ce que Philippe Descola appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette conception du monde qui nous sépare de l'ensemble des vivants en les désignant comme la nature, qui est quelque chose qu'on peut effectivement à la fois contempler et exploiter. Mais une expérience comme le Covid-19, c'est-à-dire par exemple pour un habitant des villes d'être infecté par un virus qui vient d'une chauve-souris en Chine, puisque on sait que les chauves-souris sont le réservoir de ce virus, nous me remet en contact avec la nature. Alors la nature dans sa dimension bien sûr la plus sauvage, la plus ambivalente,
c'est-à-dire un peu effrayante quand même.
Et un peu effrayante, c'est-à-dire la diversité des virus qui fait que certains ne sont pas du tout reconnus par notre système immunitaire, et que un coronavirus qui devrait être facilement intégré par le système immunitaire le fait complètement dérailler et produit ces paniques immunitaires qui causent les décès que l'on a vus. Donc il y a effectivement pour le Covid-19 cette expérience de la nature qui est le retour des animaux en ville, le chant des oiseaux, et c'est une façon effectivement de communiquer avec les vivants. Mais il y a effectivement l'expérience de la maladie qui est une autre façon de communiquer avec les vivants, et il faut maintenir ces deux expériences-là, parce que c'est justement quand on ne sait plus entretenir ce double rapport très complexe de proximité et de distance avec les vivants ou avec la nature que la nature se venge.
Comment on fait, Anne-Caroline Prévost, pour justement renouer avec le vivant, et en particulier pour une humanité qui vit majoritairement en ville, et c'est avec un phénomène qui va évidemment s'accélérer dans les années à venir. On organise régulièrement des sessions, des séjours à la campagne pour se mettre au vert. On fait venir le vert à la ville, sachant que une fois qu'on l'a dit en théorie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il faut en mettre du vert dans la ville, c'est pas si simple, que par ailleurs les animaux, on aime bien quand c'est joli et pas embêtant, mais dès que ça dévaste les poubelles, que c'est un peu nuisible, que ça défèque sur les murs et les pare-brises des voitures, c'est un problème. Donc, c'est pas si facile que ça. Comment on fait, Anne-Caroline Prévost?
Je pense que vous l'avez tout à fait bien dit. C'est pas si facile que ça. J'ai l'impression qu'il y a au moins trois façons de voir les choses qui sont tout à fait complémentaires. D'abord, des façons à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, On n'est pas obligé d'aller faire des kilomètres pour aller se mettre au vert. On peut prendre 5 minutes par jour pour aller observer, même dans une grande ville, les plantes qui poussent au pied des arbres, ou alors les insectes qui traversent la rue, ou les oiseaux qui se battent autour des poubelles, voilà, par exemple. Ça permet de prendre le temps, puis on verra bien ce que ça donne après pour chacun d'entre nous. On peut aussi se laisser guider par des initiatives qui sont proposées pour observer la biodiversité autour de chez soi. Mais ça, c'est au niveau individuel. Il y a aussi l'échelle collective des autorités locales et de ceux qui dirigent et qui peuvent prendre des décisions. Et notamment, à ce moment-là, je pense qu'il est de la responsabilité collective de permettre à la nature de s'installer à côté de nos lieux de vie, donc que ce soit à la campagne ou à la ville. Et cette nature, dans toute sa diversité, et donc ce que Virginie Marie s'appelle la part sauvage du monde, qui n'est pas du tout dans les milieux exotiques, pas que, mais qui est aussi tout à fait autour de nous, c'est-à-dire quelque chose qui est des êtres vivants qui ne sont pas contrôlés et qui ne sont pas domestiqués par l'humain. Et puis ensuite, il faut accepter de... et puis pour nous tous, en fait, il faut aussi collectivement inventer, accepter ensuite la présence de cette nature, qu'elle soit voulue ou pas voulue, qu'elle nous fasse plaisir ou qu'elle nous fasse pas plaisir, qu'elle nous fasse peur, qu'elle nous dérange. Mais c'est en acceptant cette diversité de la nature autour de nos vies qu'on pourra collectivement inventer des nouvelles façons d'être, de vivre, quoi.
Frédéric Keck, je le disais en début d'émission, vous publiez un ouvrage qui va sortir demain, intitulé « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine ». Le Covid-19, je le disais en début d'émission, c'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie causée par le passage d'un pathogène, d'une espèce vertébrée, à l'homme. D'abord, est-ce que vous pouvez nous redire, on en a pas mal parlé ces dernières semaines évidemment, mais de la responsabilité des hommes, de notre modèle de civilisation dans ce franchissement de cette frontière. Et puis la question qui se pose, Frédéric Keck, c'est est-ce que nous sommes condamnés finalement à vivre d'autres pandémies de ce genre, du fait qu'au fond ces zoonoses seraient totalement incontrôlables, ou est-ce qu'il y a des possibilités, des options pour s'en protéger? Je sais bien que oui, puisque vous en proposez au moins 3 sur lesquelles on va se pencher. Frédéric Keck.
Oui, j'ai décrit donc les virologues qui s'occupent de la grippe aviaire comme des chasseurs de virus, c'est d'ailleurs le terme qu'ils utilisent eux-mêmes, parce que j'ai voulu prendre au sérieux cette idée que ils prennent le point de vue des animaux à travers les virus, qu'ils suivent les oiseaux transmetteurs de grippe aviaire ou les chauves-souris transmetteurs de coronavirus type SRAS. Et en ce sens, donc, j'ai intégré l'anthropologie des sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc que Philippe Descola qualifie d'animistes, parce que justement, ils prennent le point de vue des animaux pour les chasser, dans une anthropologie des sciences qui s'occupe davantage des dispositifs de surveillance, dans lequel, effectivement, des virologues travaillent avec des épidémiologistes pour lancer des signaux d'alerte de ces menaces pandémiques. Alors, c'est ce qui m'a permis de basculer un peu les virologues par rapport aux épidémiologistes, qui sont les deux grands acteurs qu'on a vus sur la scène publique de la pandémie, c'est que à Hong Kong, ils se sont alliés avec des ornithologues, justement pour suivre au quotidien les cas de grippe sur les oiseaux et connecter la menace de la pandémie, qui concerne surtout les humains, avec d'autres menaces d'extinction d'espèces, comme si l'extinction des oiseaux nous renvoyait en miroir la possibilité de l'extinction de notre propre espèce. Et donc c'est en ce sens que je dis qu'ils sont animistes. Ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, qu'ils sont dans une espèce de fusion spirituelle avec la nature, mais qu'ils sont capables de prendre le point de vue des animaux en renversant les hiérarchies qui supposent que les hommes sont supérieurs aux animaux. Et en ce sens, je crois que nous avons besoin de ce renversement pour nous préparer aux prochaines pandémies pour lesquelles les animaux nous envoient des signaux d'alerte.
Donc il faut s'allier à ces fameuses sentinelles qui se situent sur ce que vous êtes intéressé en particulier, hein, du côté de l'Asie, en Chine et aux frontières de la Chine. Tiens, je vous propose d'écouter justement un vétérinaire du comté de Hong Kong. On était en mars 2013.
À leur arrivée, les volailles importées sont examinées à la station. Les officiers vérifient leurs certificats de santé et d'autres documents d'exportation émis par les autorités de Chine continentale. Des examens physiques des volailles sont effectués pour détecter la présence de bêtes malades ou mortes. Seules les volailles présentant des résultats satisfaisants seront autorisées à la mise en vente. Nous testerons chaque arrivée de volailles vivantes importées de Chine continentale. Si nous trouvons des volailles infectées par le virus H5 ou H7, le gouvernement envisagera leur abattage dans le commerce et les marchés de gros.
Voilà, on est donc à Hong Kong en mars 2013 avec des contrôles renforcés au sein des élevages de volailles après des cas d'infection par le virus H7N9 en Inde, et on entendait un vétérinaire en chef, un témoignage recueilli par l'AFP. C'est intéressant effectivement de voir comment du côté de la Chine, du côté des frontières de la Chine, on utilise ces animaux comme sentinelles, comme lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre, Frédéric Keck, qu'on a en Chine un poulet qu'on appelle Xiaobingji, qui veut dire poulet soldat siffleur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, le soldat qui nous protège, le siffleur, le lanceur d'alerte. Pourquoi, selon vous, Frédéric Keck, c'est en Asie qu'on a cette approche cynégétique, c'est-à-dire relative à la chasse, qui est particulièrement présente? Est-ce qu'il y aurait une certaine conception du vivant qui serait propice justement à cette manière de se protéger des pandémies qui viennent du monde animal?
Oui, alors Hong Kong, qui est donc le lieu de mes enquêtes, a été très inventif dans la mise en place de ces forums dans lesquels des fermiers de volailles, des vétérinaires, des marchands, des gouvernants, des microbiologistes et même des bouddhistes qui relâchent des oiseaux discutent ensemble de la bonne gestion de cette transmission d'un virus des oiseaux sauvages aux humains. Et ça, c'est parce que c'est une société démocratique et libérale dans un espace chinois qui lui-même est effectivement analogiste, hein, au sens de Philippe Descola, c'est-à-dire que quand il y a des crises, on fait des abattages massifs d'animaux, et puis au quotidien, on essaye de construire des relations un peu plus animistes justement avec ces animaux, en prenant leur point de vue, puisque on n'a pas l'héritage du naturalisme européen qui sépare les hommes des animaux ou les villes des campagnes. J'en prends pour indice un phénomène tout à fait récent qui rejoint la discussion que nous avons eue tout à l'heure, qui est que les sangliers se rapprochent des habitats urbains à Hong Kong. C'est un phénomène qu'on observe aussi en Europe, notamment à Barcelone ou à Berlin. Et les sangliers sont quand même perçus comme des menaces, d'abord parce qu'ils fouillent les poubelles, et puis par ailleurs ils sont porteurs de ce qu'on appelle la peste porcine africaine, qui a décimé la moitié de l'élevage de cochons en Chine. Eh bien, on voit que les jeunes Hongkongais ont développé des mobilisations pour protéger ces sangliers, pour éviter justement qu'ils soient tués, pour mettre des bonnes distances entre les habitats et les sangliers. Donc les sangliers deviennent en quelque sorte des nouvelles sentinelles, comme l'ont été les volailles et les oiseaux et les chauves-souris, pardon, au moment du SRAS et de la grippe aviaire. Donc voilà, c'est une hypothèse vraiment sur les frontières de la Chine et pas du tout sur une espèce de culturalisme propre à la Chine.
Anne-Caroline Prévost, est-ce que il vous semble qu'on pourrait, comme le font les Hongkongais, faire des animaux nos alliés? Et je vais prendre un exemple, Anne-Caroline Prévost, pour étayer notre discussion, parce qu'il y a quelques semaines, il y a une information intéressante qui peut paraître tout à fait anodine, mais qui me semble-t-il, éclaire pas mal la situation. Avec des chiens qui sont d'ordinaire entraînés à la détection d'engins explosifs, qui sont désormais capables d'identifier des échantillons de sueur prélevés sur des patients atteints de Covid. Donc en théorie, on a un formidable allié dans le règne animal pour la détection du virus. C'est d'autant plus intéressant qu'on sait combien le manque de tests a été l'un des facteurs aggravant de la pandémie, sauf que en réalité, on voit mal, Anne-Caroline Prévost, que ce mode de détection soit répandu, parce que probablement on aurait peur que ça soit pas fiable, parce que on imaginerait problématique de se faire aboyer dessus lorsqu'on est Covid+. Enfin, j'en sais rien, mais résultat, ce qui se passe, c'est qu'on n'utilise pas du tout des chiens. On voit des queues de patients dès 7h du matin à l'entrée des laboratoires pour faire des tests virologiques dont par ailleurs la fiabilité est absolument pas certaine. Comment on fait, Anne-Caroline Prévost, pour dépasser cette défiance, pour retrouver la confiance dans les atouts que nous offre la nature, Anne-Caroline Prévost?
Je suis bien embêtée pour répondre à votre question.
C'est pas grave, ça arrive.
Non, oui, tout à fait. Mais j'ai plutôt envie de faire une pirouette en disant que utiliser les chiens ou les animaux comme des alliés, c'est toujours rester dans un système où on cloisonne un petit peu les enjeux et puis on a une question, on va trouver une solution et puis si elle est technique, et ben les techniques, si en plus elle peut utiliser le vivant, ben tant mieux. Mais à ce moment-là, le chien, au lieu de, enfin, est-ce qu'il est réellement un allié ou est-ce qu'il est un substitut à une solution technique non vivante, je ne sais pas. Et moi, j'ai plutôt envie d'ouvrir le débat en disant, ok, il y a des zoonoses. Les zoonoses, on les aura toujours. Et comme l'a dit Frédéric Keck, elles ont été là depuis longtemps et elles vont pas s'arrêter. C'est la transmission de virus ou d'autres choses de l'animal à l'humain. Après, pour qu'une zoonose se transforme en pandémie mondiale, là, c'est peut-être aussi quelque chose qui est à questionner vis-à-vis de nos modes de société et notre globalisation et nos modes de fonctionnement de nos sociétés humaines au niveau mondial. Et du coup, ça ouvre la question à toute une vision beaucoup plus large et beaucoup plus systémique de notre fonctionnement, à la fois de nos sociétés humaines, mais aussi de la place qu'on prend par rapport au monde vivant et au monde non humain à côté. Et c'est plutôt vers là que j'emmènerai la discussion, plutôt que de trouver des solutions techniques à des techniques ou technologiques ou des petites solutions pratiques à des problèmes bien précis.
Frédéric Keck.
Oui, j'ai lu avec intérêt cet article du Monde sur les chiens sentinelles, effectivement, qui sont entraînés à sentir l'odeur du Covid sur des patients humains. Je ne sais pas comment on les a entraînés, mais en tout cas, si ça se faisait, je suis d'accord avec le fait que c'est un peu inquiétant d'avoir des chiens qui vous aboient dessus quand vous êtes un patient suspect et que c'est effectivement une autre forme de militarisation des animaux. Mais cependant, par rapport à la pénurie de tests dont nous souffrons en France, soit de tests sérologiques, soit de tests PCR dont la fiabilité n'est pas garantie, c'est vrai que la relation très simple entre un chien et un humain, qui pour le coup a une histoire aussi longue que la domestication, si elle peut nous enseigner sur ce besoin que nous avons de savoir qui est malade pour ne pas être soi-même affecté, eh bien, je crois qu'effectivement, c'est quand même une façon intéressante de réintégrer les animaux dans notre mobilisation sur la pandémie. On a eu aussi cette information qu'on pouvait trouver des morceaux de virus dans les égouts. Et ça aussi, ça rejoint des dispositifs sentinelles qui existent depuis longtemps, où par des coquillages, on mesure des pollutions chimiques dans les eaux. Donc ces dispositifs de sentinelles, c'est tout à fait réjouissant de voir qu'ils se multiplient, parce que sinon, effectivement, on en était dans des définitions assez chimiques, hein, ou génétiques, en tout cas biotechnologiques, du dépistage, alors qu'on peut avoir une solution beaucoup plus écologique.
Anne-Caroline Prévost, peut-être encore un tout dernier mot avant d'accueillir une nouvelle invitée et de parler de la lutte contre le trafic d'espèces protégées menacées sur la question des droits des animaux. Parce que pour refonder un nouveau contrat social avec les animaux et le monde vivant, est-ce qu'il faudrait pas aussi leur offrir de nouveaux droits? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels seraient précisément ces droits à accorder au monde vivant pour une réconciliation saine et sereine, Anne-Caroline Prévost?
Alors effectivement, il y a plusieurs pays et groupes sociaux qui ont déjà commencé à accorder des droits aux vivants non humains. Je ne suis pas juriste et cette question, en fait, elle résonne. Elle me pose la question qui est de qui accorde ces droits et qui sont les porte-paroles. Et donc, encore une fois, plus largement que d'accorder des droits, avant d'accorder des droits, peut-être qu'il faut qu'on repense plutôt notre relation à tous, quoi. Je ne peux pas répondre plus précisément à cette question-là.
C'est déjà une piste intéressante. On est avec vous, Anne-Caroline Prévost, et vous, Frédéric Keck, dans cette série consacrée à l'Anthropocène, le virus de la dernière chance, dans cette émission Humain, Nature vers la réconciliation. On va parler donc de la lutte contre le trafic. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h35.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le corps du pangolin est recouvert d'écailles. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin se met en boule. Ses écailles se referment à la façon de certaines persiennes. Et vous pouvez voir à présent ses griffes, les griffes des pattes antérieures. Celles dont il n'use pas pour marcher, mais qui lui servent à creuser. Sa tête est adaptée au genre de chasse qu'il affectionne. Elle est pointue, affilée, ce qui fait qu'il peut facilement la passer dans l'orifice d'une fourmilière ou l'en retirer sans risquer de la voir se coincer.
Voilà, une très belle archive de 1962 sur ce pangolin, ce petit mammifère fourmilier à écailles d'Afrique et d'Asie qui s'est retrouvé à la une de l'actualité, alors que certains experts l'ont soupçonné d'être à l'origine de la transmission du Covid-19 à l'homme. Pourtant, cette espèce étant protégée, elle n'aurait jamais dû se retrouver sur le marché d'une ville chinoise. Comment s'est-il retrouvé là? La crise sanitaire aura-t-elle pour effet d'accentuer la lutte contre le trafic illégal? Et d'ailleurs, que dit le droit international en la matière? Céline Sisler, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice France et Afrique subsaharienne de l'IFAO, qui est un fonds international pour la protection des animaux. Comment, Céline Sisler, un pangolin a pu se retrouver sur un marché humide de Wuhan, alors même qu'il est protégé par la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages? Comment ça a pu arriver?
Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait l'objet d'un trafic. Donc, le trafic d'espèces sauvages est une problématique transnationale, et malheureusement, eh bien, les pangolins font partie des espèces particulièrement ciblées pour répondre à une demande pour leur écaille et une demande pour la consommation de leur chair.
Est-ce que vous avez le sentiment, Céline Sisler, que cette crise sanitaire pourrait nous pousser tous collectivement, quand je dis tous, c'est les États d'abord dans un premier temps, puisque c'est pas par le truchement des États-nations que ça se passe. Est-ce que vous pensez que cette question-là pourrait devenir plus prioritaire à la faveur de ce coronavirus, ou c'est peine perdue selon vous?
Alors non, ça n'est pas peine perdue. Il faut tirer les leçons de cette pandémie et du rôle que joue le trafic d'espèces sauvages. Donc évidemment, il y a des mesures à prendre, des mesures bien plus restrictives, notamment fermer les marchés de consommation d'animaux sauvages, notamment protégés, mieux encadrer le commerce légal d'espèces sauvages et surtout lutter bien plus efficacement contre le trafic d'espèces. Et ça, jusqu'à présent, ça n'a pas été un mandat prioritaire des États, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours pour renforcer les moyens des forces de l'ordre pour mieux lutter contre cette problématique.
Et sur le cas chinois en particulier, les autorités chinoises ont pris visiblement des décisions très concrètes pour lutter contre le trafic de pangolins.
Alors, tout à fait, les autorités chinoises, très rapidement, ont fermé les marchés d'animaux vivants et puis ont interdit la consommation, la détention, le transport des espèces sauvages, et cela jusqu'à nouvel ordre, puisque les autorités chinoises envisagent de renforcer leur législation encadrant la protection des espèces sauvages. Donc, c'est un pas en avant qui est important et peut-être qui peut servir de dynamique pour l'ensemble des autres pays qui sont confrontés à cette problématique.
Céline Sisler, visiblement, il semble qu'il y ait des choses qui aient changé dans les logiques de ces trafics d'animaux, puisque ce que disent les experts et les observateurs, c'est que pendant longtemps, le trafic d'animaux sauvages s'organisait avec des acteurs qui braconnaient des animaux, qu'ils écoulaient ensuite auprès de collectionneurs, je mets des guillemets à l'expression. Mais depuis quelque temps, visiblement, les choses s'inversent et ce sont les collectionneurs qui passent commande, si je puis dire, auprès de trafiquants, qui eux ensuite montent des équipes pour répondre à la demande. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans une logique de stock, de stocks d'animaux protégés menacés, des stocks que l'on pouvait accessoirement du coup saisir aux douanes. D'abord, quelle est la réalité de cette inversion de la logique du trafic et comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ça? Comment être efficace dans ce nouveau contexte?
Alors, les deux logiques existent toujours. Il faut savoir que les criminels qui sont impliqués dans le trafic d'espèces sauvages continuent de stocker et d'acheminer leur cargaison à destination de pays consommateurs. Mais ce que l'on a pu observer en faisant des veilles sur Internet, c'est que effectivement, il y a une tendance qui avait changé, c'est qu'aujourd'hui, par le biais d'Internet, il y avait des commandes qui étaient passées auprès de braconniers ou de trafiquants, et donc c'est en réponse à ces commandes que la collecte illégale ou le braconnage s'effectuait. Donc les deux dynamiques existent, et clairement, comment répondre à ces... Comment réagir? Eh bien, c'est encore une fois en priorisant la lutte contre ce trafic, en faisant des veilles plus fréquentes sur les sites internet qui permettent finalement cette mise en relation entre des consommateurs et puis des vendeurs. Donc il faut renforcer les contrôles à ce niveau-là, que ce soit par les sites eux-mêmes ou par les forces de l'ordre, et pour faire cela, il faut évidemment former les forces de l'ordre à une meilleure connaissance de ce type de trafic.
Alors, il y a plusieurs niveaux de lutte. Il y a effectivement la lutte contre ces réseaux qui, très souvent d'ailleurs, sont des réseaux internationaux. Mais il y a aussi, j'allais dire, la lutte beaucoup plus locale. Je me souviens que nous avions eu l'occasion, Céline Sisler, il y a quelques années, d'évoquer la question du trafic d'ivoire, et vous m'aviez dit combien il était important d'impliquer les populations locales pour lutter justement contre le trafic, parce que la chaîne du trafic, elle commence sur des sites, localement. Et vous m'expliquiez à l'époque que pour qu'une lutte soit vraiment efficace, il faut impérativement impliquer les populations locales.
Oui, tout à fait. Il faut que les populations locales, qui finalement sont les premières à être impactées par le trafic, puisque le trafic, c'est finalement retirer des écosystèmes ce qui peut être leur moyen de subsistance, de par le tourisme ou par la consommation, hein, ça arrive. Donc c'est impliquer les communautés pour qu'elles deviennent les premières protectrices, en fait. Elles sont au front, elles sont en première ligne pour protéger les écosystèmes, pour protéger les animaux sauvages. Et donc il faut effectivement discuter avec elles et vraiment établir les solutions pérennes qui puissent permettre une cohabitation harmonieuse entre ces communautés et les populations animales auprès desquelles elles vivent.
Oui, vous parlez de front, c'est pas tout à fait un hasard. On est véritablement sur une guerre. Quand on regarde ce qui se passe du côté de l'Afrique, par exemple, avec le trafic d'ivoire, on a des groupes qui sont d'abord très bien organisés, évidemment, mais très armés aussi. Et pour répondre à ça, il faut mettre en face des moyens équivalents. Et c'est la raison pour laquelle on a vu un peu partout en Afrique des équipes de rangers qui aujourd'hui ont des moyens quasi militaires. On est dans un contexte de guerre, au sens premier du terme.
Oui, tout à fait. En fait, on a vu, et ça, c'est aussi l'implication des réseaux criminels qui sont dotés de moyens très importants et qui permettent d'équiper les braconniers avec des armes très perfectionnées, parfois des armes de guerre, face auxquelles les rangers n'étaient absolument pas préparés. Donc, évidemment, il y a une surenchère. Et aujourd'hui, les communautés de rangers sont effectivement formées très souvent à l'utilisation de technologies militaires ou d'armes militaires, d'une part pour déjà se protéger eux-mêmes, hein, protéger leur vie, protéger leur famille, mais aussi pour être en mesure ensuite de réagir sur le terrain, puisque effectivement, malheureusement, c'est une...
On va faire réagir nos deux invités, Anne-Caroline Prévost et Frédéric Keck. Et je vais commencer par vous, Frédéric Keck, parce que j'ai utilisé le terme de guerre. Alors vous, en revanche, vous aimez pas tellement ce terme de guerre quand il s'agit de lutte contre la pandémie. En tout cas, il vous semble qu'elle masque quelque chose qui est pas forcément adapté, efficace pour répondre au défi. Frédéric Keck, je me trompe pas?
Le vocabulaire de la guerre me gêne pas fondamentalement. Ce qui me gêne, c'est quand on définit un ennemi de l'autre côté d'une frontière et qu'on vise à l'éradiquer. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs dont les anthropologues nous parlent en Amazonie, par exemple, sont en permanence dans des rapports de guerre, et les relations amis-ennemis s'inversent justement dans les techniques chamaniques de préparation avec leur rencontre. Mais je vais réagir sur le pangolin, si vous voulez bien, j'ai un peu étudié cette question pour un nouveau projet de recherche. On n'a pas la preuve de la transmission du SARS-CoV-2 des chauves-souris aux humains par les pangolins. C'est en fait le gouvernement chinois qui a pointé du doigt le commerce de pangolins parce qu'on a trouvé des virus proches du SARS-CoV-2 chez des pangolins de Malaisie. Mais pour qu'un pangolin de Malaisie soit vendu sur un marché à Wuhan, il faut quand même déjà pas mal d'étapes. Et alors que pour le SRAS, on avait la preuve que les marchands de civettes masquées étaient les transmetteurs du virus, puisqu'ils étaient malades et porteurs, on n'a pas cette preuve pour la pandémie. C'est important parce que ça veut dire justement que ce marché, ce trafic sauvage d'animaux sauvages, en tout cas de pangolins qui vient de Malaisie et d'Afrique centrale, est justement l'objet d'une régulation en Chine depuis 10 ans. La Chine essaye de contrôler cette guerre internationale pour le trafic de pangolins et saisit l'occasion de la pandémie de Covid pour prendre des mesures qu'elle ne pouvait pas prendre avant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment dans les marchés aux animaux de Chine, dont il faut rappeler quand même que c'est surtout des poissons et des volailles qui y sont vendus, et que 30% de la consommation de viande en Chine vient de ces marchés parce que les Chinois n'ont pas confiance dans la viande de supermarché. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement comment les relations entre les animaux sauvages et les animaux que nous on appelle domestiques vont se recomposer sur ces marchés.
Alors, je vous donne la parole à Anne-Caroline Prévost tout de suite, mais alors du coup, il y a quand même une question qui se pose parce que vous remettez en cause Frédéric Keck, enfin en tout cas, vous interrogez la question de savoir si un pangolin de Malaisie a pu se retrouver à Wuhan. On a une spécialiste justement des réseaux, des trafics. Céline Sisler, est-ce qu'un pangolin de Malaisie a pu se retrouver à Wuhan? Est-ce que les filières actuelles rendent la chose plausible?
Oui, bien sûr. Oui, ça c'est indéniable. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des analyses génétiques qui ont été faites sur le marché de Wuhan pour identifier quelles étaient les espèces sauvages qui étaient présentes. Et des pangolins de Malaisie étaient offerts à la vente. Donc, et clairement, étant une espèce protégée, il n'aurait jamais dû se trouver sur ce marché.
Anne-Caroline Prévost, réaction.
Oui. Alors ma première réaction, c'est que évidemment, il faut faire respecter les règles et les législations qui ont été adoptées au niveau international, notamment en ce qui concerne les espèces protégées. Mais par contre, j'ai deux remarques. Enfin, j'ai une remarque en disant que c'est aussi... Enfin, l'intervention de Céline Sisler a bien montré aussi qu'une partie d'une façon de sortir de ça, ça peut être aussi de travailler avec les gens qui consomment, et donc en bas de la chaîne, et les consommateurs. C'est un des leviers énormes possibles pour pouvoir changer un petit peu tout ça. Et puis, je voudrais aussi faire remarquer que il s'agirait pas de vouloir imposer une norme ou une façon de se comporter bien adoptée dans les pays occidentaux à d'autres cultures, notamment en ce qui concerne les habitudes de consommation de viande d'animaux sauvages, par exemple, par rapport à des animaux domestiques. Je ne parle pas des espèces introduites en danger et protégées.
Merci beaucoup en tout cas à Céline Sisler qui était avec nous en direct par téléphone. Je rappelle que vous êtes la directrice France et Afrique subsaharienne de l'IFAO, qui est un fonds international pour la protection des animaux. On va poursuivre nos interrogations, rester sur les animaux et le rapport entre les hommes et les animaux. Et on va regarder ce qui se passe du côté de la Mongolie et de la Russie. Voilà, ce qu'on entend à l'instant, c'est le Komi, je ne sais pas si je prononce correctement, le chant traditionnel des éleveurs nomades de Mongolie qui résonne dans les plaines de l'Altaï lors des rituels chamaniques. Dans ces territoires désertiques, les hommes et les bêtes vivent dans un rapport pastoral traditionnel, imprégné de l'héritage chamanique, qui diffère beaucoup évidemment de l'élevage tel qu'on le pratique en Occident. Alors comment comprendre ce rapport spécifique à l'environnement? Quel lien ces éleveurs entretiennent-ils avec leurs animaux et que nous apprennent-ils? Bonjour Charlotte Markina.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, maîtresse de conférences en langue et civilisation mongole à l'INALCO et vous avez fait de très nombreux séjours prolongés auprès d'éleveurs nomades. On pourrait penser d'abord, je parle de nomades, on pourrait penser que chez ces éleveurs, au fond, le nomadisme, c'est une histoire de plaisir du voyage, parce qu'après tout, le voyage, c'est quand même bien agréable. Mais en réalité, la raison de leur mobilité permanente, elle est très concrète, elle est très pragmatique. Vous expliquez que il s'agit d'abord en réalité de respecter un certain équilibre entre les ressources et la pression qui exercent les éleveurs et leurs animaux. Ce nomadisme, c'est au fond le moyen par lequel on assure le futur. On a cette conscience que la sédentarisation a pour effet d'épuiser les ressources. Charlotte Markina.
Voilà, donc en fait si les éleveurs sont nomades, notamment en Mongolie, c'est pour pouvoir à long terme utiliser ces ressources. Donc, les éleveurs sont plus ou moins mobiles, ça dépend des conditions environnementales et des régions, mais l'idée, c'est de ne pas totalement épuiser les ressources, puisqu'on est quand même dans une région du monde où, disons, les ressources naturelles ne sont pas extrêmement abondantes, et donc de pouvoir réutiliser ces ressources d'une année sur l'autre en maintenant une pression qui ne soit pas trop forte sur ces ressources à travers la mobilité.
Et d'ailleurs, ils ne disent pas qu'ils sont des nomades, mais ils disent qu'ils font du nomadisme. Hein, au fond, le nomadisme, pour eux, c'est moins une fin qu'un moyen.
Ils disent, en fait, plutôt que nomade, qui semble être un terme assez récent dans la langue mongole, ils disent tout simplement qu'ils sont éleveurs, parce que pendant très longtemps, il n'y a simplement pas eu d'autres formes d'élevage que de l'élevage nomade. Et effectivement, en fait, ce que vous évoquez, c'est ce à quoi j'ai eu affaire en Sibérie du Sud, donc de l'autre côté de la frontière, où vivent les bouriates, qui sont donc les Mongols les plus septentrionaux. Et lorsque je disais que je travaillais sur les nomades, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu viens faire là? Je dis mais comment ça, vous n'êtes pas nomade? Il dit non, on n'est pas nomade, ils sont en Mongolie, les nomades. Il dit mais par contre, le mois prochain, on va nomadiser. Donc voilà, ils nomadisaient.
Je rappelle, Charlotte Markina, je ne l'ai pas dit, hein, je ne l'ai pas mentionné, que vous avez publié l'année dernière un ouvrage justement sur ce sujet, Nomads Land, éleveurs, animaux et paysages chez les peuples mongols. Mais justement, dans votre ouvrage, vous faites cette comparaison entre ces deux ethnies mongolophones, les Halles, donc en République populaire de Mongolie, ancien satellite de l'ex-URSS, et donc les Bouriates, dont vous parliez en Russie, qui sont là sur les bords du lac Baïkal. S'il y a évidemment un fond culturel commun, il y a aussi une histoire récente un peu différente. Les seconds étaient beaucoup plus marqués par la période soviétique, par donc la collectivisation, par le développement économique, autant de choses qui ont dû, je pense, imprégner leur imaginaire. Quelle différence fondamentale vous avez vue dans le rapport en particulier à l'environnement, dans le rapport peut-être aux animaux aussi, entre ces deux ethnies?
Alors, une des différences principales, c'est est liée au fait à l'inscription dans un contexte sociopolitique et culturel russe d'un côté, qui n'est pas le cas de l'autre. Donc, des deux côtés, on a eu une forme de collectivisation, sauf qu'elle a été plus forte du côté russe. On a eu une sédentarisation aussi qui a été plus forte, où tous les habitats mobiles, comme la yourte, ont été remplacés par des fermes en bois, en dur. Et puis surtout, on a assisté à l'introduction de races exogènes, donc de vaches comme des Holstein, des Simmental, etc., et qui sont donc beaucoup plus productives, puisque l'objectif aussi de la mise en place de cette collectivisation, c'était de renforcer la productivité, sauf que c'était des animaux qui avaient besoin d'être affouragés, d'être éventuellement logés dans des étables parfois même chauffées. Donc on a aussi toute une relation qui s'est transformée à l'animal, puisque ce que je montre dans mes recherches, c'est que les Mongols valorisent et mettent en place une relation avec des animaux domestiques qui est une relation où les animaux ont une part d'autonomie qui est très importante. On essaye de faire en sorte que les animaux se débrouillent le plus possible, n'aient pas besoin d'être gardiennés, puissent se défendre contre les prédateurs, puissent se nourrir et se reproduire le plus possible par eux-mêmes. Et donc, en introduisant toutes ces races qui avaient besoin d'être en permanence à fourrager, voire chauffer la nuit, on change profondément cette relation à l'animal.
Ouais, on a perdu ce principe de l'autonomie animale qui était si central dans le rapport de ces éleveurs à leurs bêtes. Il y a peut-être un autre élément, c'est la question du rapport à la terre, parce que ce qui apparaît assez clairement là aussi, vous le décrivez très bien dans votre ouvrage, c'est cette conception qu'au fond, la terre ne nous appartient pas, et peut-être même l'inverse, peut-être est-ce la terre qui nous possède. Mais il y a là aussi, avec les logiques capitalistes qui s'introduisent progressivement, on a peut-être des dilemmes à régler, et je pense en particulier à la question de l'extraction minière qui s'est beaucoup développée dans la région, avec des entreprises, notamment étrangères, notamment chinoises, qui viennent exploiter les sols de Mongolie. Et il se trouve que c'est pas seulement des étrangers qui travaillent dans ces sites. Il y a aussi des locaux qui se font embaucher par ces sociétés pour subvenir à leurs besoins, à celui de leur famille. Comment est-ce qu'on règle cette question-là? Parce que ça va quand même totalement à l'encontre de la conception que l'on se fait de ce rapport à la terre. Comment on vit ce dilemme?
Voilà, alors peut-être que pour commencer, je peux replacer le contexte, puisque chez les peuples mongols, effectivement, c'est difficile de se considérer comme propriétaire d'une terre, puisque les vrais propriétaires des lieux sont ce qu'on appelle les esprits maîtres des lieux, qui sont des entités invisibles, qui résident principalement sur les sommets ou dans les cours d'eau, et donc on doit respecter ces entités invisibles, en ne se comportant pas comme des propriétaires des terres. Donc, ça veut dire, par exemple, préserver les ressources, prélever ce dont on a besoin, rendre hommage à ces entités invisibles à travers un certain nombre de rites et de cultes. Mais c'est aussi, donc, respecter la terre et notamment, idéalement, ne pas la creuser. Puisque, quand on entend, par exemple, des chamans aujourd'hui expliquer que les ressources de la terre, les filons d'or ou toutes les ressources minières qui sont dans le sous-sol, elles sont comparées en fait aux veines de la terre, et que donc aller creuser la terre et extraire ces ressources, c'est en quelque sorte comme si on saignait directement la terre. Et donc effectivement, ça pose des graves dilemmes moraux aux Mongols d'aujourd'hui, puisque économiquement, c'est quand même très profitable d'utiliser ces ressources minières. Et donc, on essaye de composer avec les entités invisibles. Alors parfois, on a eu un recours massif au chamanisme, au bouddhisme, pour essayer de se réconcilier, pour le coup, avec ces entités invisibles. Alors que de l'autre côté de la frontière, en Russie, là, c'est un autre problème qui se pose, c'est plutôt celui de la privatisation des terres, puisque le gouvernement russe a exigé que les terres soit privatisée, elle n'avait toujours pas été dans le cadre de la décollectivisation depuis les années 90, et là aussi, comment est-ce qu'on devient propriétaire des terres alors que, culturellement, normalement, on n'est pas propriétaire des terres. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours.
Merci beaucoup, Charlotte Marquina. Je rappelle l'ouvrage que vous aviez publié l'année dernière, Nomad's Land, éleveurs, animaux et paysages chez les peuples mongols, c'était aux éditions Zone Sensible. Sing out a perfect solo, let your clear voice fill the air, and let the new morning chorus begin. Give a heart when she feels down, lift her for the day, and make it nice and easy going on her way. All day long I think about her, can't live the night without her. For me now I want no other. Et un grand merci à nos deux invités qui nous ont accompagnés toute cette heure, Anne-Caroline Prévost et Frédéric Keck. Frédéric Keck, je rappelle à nos auditeurs que vous publiez là, dans les heures qui viennent, ça sera demain la sortie officielle, Les Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. C'était aussi paru, ça va paraître chez Zone Sensible. Un grand merci à tous les deux. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.